que nous avons choisi aujourd'hui s'intitule « Deux siècles de rhétorique réactionnaire » et il est signé Albert Otto Hirschman, économiste dont l'œuvre convoque aussi la philosophie, la politique, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Et c'est Jezabel Coupé-Soubéran qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez écrit il y a quelques années « Blabla Banque, le discours de l'inaction » paru aux éditions Michalon, on y reviendra. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce penseur iconoclaste qu'est Albert Hirschman ?
Oui, Albert Hirschman, c'est vraiment un penseur très très impressionnant. C'est un grand intellectuel du XXe siècle. Il est né à Berlin en 1915, dans une famille de la moyenne bourgeoisie. Il s'engage au début des années 30 dans le Parti social-démocrate pour essayer de lutter contre la montée du nazisme. Et puis ensuite, il va être obligé de fuir le nazisme. Sa vie, c'est vraiment une vie très romanesque en fait, hein, parce qu'elle est faite d'engagements, d'exil, de voyages, qui font d'Hirschman à la fois un penseur et un acteur des grands bouleversements du XXe siècle. Et ça, c'est très caractéristique chez lui, cette conjugaison très forte entre la pensée et l'action. Il est dans les deux.
Voilà. Il va s'engager notamment auprès des républicains espagnols, puis ensuite auprès des antifascistes italiens, et il se définit lui-même comme un activiste.
Exactement. Donc il est vraiment dans cette logique de l'action. C'est la pensée pour l'action. Et intellectuellement, c'est véritablement quelqu'un d'inclassable. C'est une pensée hors norme, une pensée libre, subversive. Il est même capable, on y viendra je pense, de retourner sa pensée contre lui-même, c'est-à-dire de la remettre en question.
Alors dans son ouvrage « Deux siècles de rhétorique réactionnaire » publié en 1991, Hirschman montre comment depuis 1789, chaque avancée sociale ou politique a été suivie d'un moment réactionnaire et il s'inspire en cela du sociologue britannique Thomas Humphrey Marshall.
Oui. Alors, ce qui l'intéresse, c'est le discours de ceux qui se sont opposés au progrès social depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen jusqu'à la mise en place de l'État-providence. Et ce qu'il parvient à montrer, c'est que ce discours de réaction face aux réformes politiques et sociales visant à engendrer le progrès social, eh bien, ce discours s'articule toujours autour de trois grandes figures rhétoriques. Et ces trois grandes figures rhétoriques, c'est premièrement l'effet pervers. En gros, l'effet pervers, c'est le remède sera pire que le mal. Le deuxième argument rhétorique des réactionnaires, c'est l'argument d'inanité. Autrement dit, tout ça, ça ne sert à rien, cette réforme ne sert à rien, c'est inutile. Et le troisième argument, c'est l'argument de mise en péril. C'est l'idée que ce que l'on fait pour avancer vers ce progrès social, eh bien, coûtera quelque chose qui a été acquis antérieurement. Donc c'est le « ceci tuera cela » ou « ceci se paiera en termes de cela ». Et ce qu'explique très bien Hirschman, c'est que les conservateurs, les réactionnaires, comme il les qualifie, ne vont pas attaquer de front les progressistes. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ils accueillent une réforme progressiste, par exemple le suffrage universel, en applaudissant plutôt l'objectif de la réforme. Et puis, dans un second temps, eh bien, ils vont s'appliquer à montrer que les moyens mis en œuvre sont mal conçus et que, en fait, eh bien, on obtiendra des conséquences non voulues. Ça repose vraiment sur cette idée-là, hein, de conséquences non voulues, et qu'on obtiendra exactement l'opposé du but recherché.
Et pour cela, Hirschman s'appuie sur les travaux du sociologue britannique Marshall que je citais tout à l'heure. Marshall qui distingue ces trois phases historiques dans l'évolution de la citoyenneté. L'acquisition des droits civils qu'on peut assimiler aux droits de l'homme au XVIIIe siècle, l'acquisition des droits politiques au XIXe siècle et l'acquisition des droits économiques et sociaux au XXe siècle. Tout cela va donner des exemples à Hirschman, oui. Et va lui permettre d'étayer sa théorie.
Et effectivement, dans ces trois phases, systématiquement, l'argument d'effets pervers a été mobilisé. Hein, face, par exemple, au progrès vers le suffrage universel, eh bien, l'argument, c'était que, en gros, on va donner la possibilité à une masse inepte, grégaire, à un peuple idiot, de s'exprimer. Et donc, forcément, on n'ira pas vers du progrès social, on obtiendra tout le contraire. De la même manière, pour ce qui est de la mise en place des aides aux pauvres, eh bien, ce même type d'argument a été mobilisé. Avec l'idée que ça va aggraver la pauvreté, avec l'idée, par exemple, que si on fixe un prix limite pour le pain, Eh bien, ceux qui utilisent de la farine vont l'utiliser à d'autres choses que faire du pain. D'accord. Ou bien c'est l'idée aussi un peu plus tard, au XXe siècle, d'un Milton Friedman qui va vous expliquer que si vous mettez en place un salaire minimum, eh bien ça ne va pas améliorer le sort des travailleurs. Au contraire, ça va créer plus de chômage parce que ça réduira l'offre d'emploi des entreprises. Voilà, c'est ce type d'argument.
Et alors, dans quel contexte est-ce que Hirschman écrit ce livre, qui est un livre qui est particulièrement engagé ?
Je crois que ce qui mobilise Hirschman dans ce livre, c'est ce qu'il a mobilisé sans doute dans une grande partie de son œuvre. C'est comment faire pour bien vivre en démocratie et comment faire pour assurer la pérennité de la démocratie et comment faire pour organiser le débat démocratique sur des bonnes bases. Et ce qu'il montre, c'est que cette rhétorique réactionnaire, donc qui s'appuie non seulement sur l'effet pervers, hein, mais également sur les deux autres arguments qu'on a mentionnés, notamment l'argument d'inanité qui est beaucoup plus froid que le précédent, qui repose sur une autre représentation du système, qui consiste à dire que tout ce qu'on entreprend comme réforme, là en l'occurrence comme réforme progressiste, eh bien ne servira strictement à rien parce que on se heurte de toute façon à un système qui est absolument irréformable, à un système, si vous voulez, qui n'est pas du tout malléable. C'est comme si le système était représenté comme une sorte de bloc de granit avec des lois impénétrables. Ce qu'il nous montre à propos de l'inanité, de l'argument d'inanité, si on reprend l'argument du suffrage universel ou l'extension du droit de vote, hein, eh bien, c'est l'idée que de toute façon, ça ne sert à rien parce que toute société est divisée en deux couches. D'accord. Donc ça, ce sont des arguments qui sont repris, par exemple, de Mosca ou de Pareto, de Vilfredo Pareto. Hein, l'idée que, de toute façon, la société est gouvernée par une loi impénétrable, avec d'un côté des gouvernants, de l'autre des gouvernés, ou d'un côté l'élite, et puis d'un autre côté la non-élite. Et tous ces arguments-là, ces arguments donc mobilisés par les réactionnaires, ainsi que le troisième, la mise en péril, ça tue le débat démocratique. Donc, c'est vraiment un ouvrage, hein, me semble-t-il, sur le débat démocratique. Comment est-ce que l'on parvient à conserver, si vous voulez, la possibilité d'un débat démocratique? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce débat ne soit pas confisqué par une élite, par une frange qui va faire valoir simplement son raisonnement, ses intérêts.
Et ce qui est intéressant avec Hirschman, c'est qu'à la fin du livre, il reconnaît que les excès de la rhétorique et l'hostilité à toute forme de dialogue ne sont pas l'apanage de ceux qu'il appelle réactionnaires, mais qu'on peut aussi le retrouver chez les progressistes.
Oui, alors ça, je trouve ça fabuleux, moi, chez Hirschman, cette capacité qu'il a à remettre en question sa propre pensée et après, dans son ouvrage, avoir décortiqué la rhétorique réactionnaire en nous expliquant cet argument d'effet pervers, cet argument d'inanité, cet argument de mise en péril, il s'interroge et il le fait partager à ses lecteurs. Et il dit, au fond, j'ai décortiqué la rhétorique réactionnaire, mais est-ce que moi, je ne suis pas enfermé dans une rhétorique progressiste? Alors, examinons cette rhétorique progressiste. Et là, il nous montre qu'effectivement, les progressistes eux-mêmes ont leur rhétorique, ont ce schéma de pensée dans lequel ils peuvent s'enfermer et ils vont ainsi, si vous voulez, surestimer les avantages des réformes au même titre que les réactionnaires vont surestimer les dommages des réformes. Tout ça, il explique vraiment, vraiment très bien. Et ce qu'il nous dit, au fond, c'est que si on veut préserver le débat démocratique, si on veut faire vivre le débat démocratique, il faut que tout le monde puisse s'entendre et se parler. Et donc, il faut s'affranchir de ces rhétoriques qui sont comme des prisons de la pensée. Il nous donne les clés, Hirschman, dans son livre.
Isabelle Coupé-Soubéran, vous vous êtes largement inspirée de la thèse d'Hirschman pour écrire votre propre livre, Blabla Banque, sorti en 2015. D'abord, dans quel contexte est-ce que vous avez vous-même découvert cet ouvrage?
Alors, pour tout vous dire, en fait, je l'ai découvert sur le tard. Je l'ai découvert, ça devait être en 2012-2013. J'étais membre d'un jury d'agrégation du secondaire. Alors, quand on participe à ces jurys, c'est qu'il y a de l'interdisciplinarité. On est avec des collègues, justement, sociologues, historiens, politistes. Et puis, ce jour-là, je faisais passer une épreuve de leçon. Alors, le candidat avait planché de nombreuses heures. Son sujet, c'était l'État-providence en France au XXe siècle. Et quand arrive le tour de mon collègue sociologue, mon collègue lui dit quels étaient, d'après Albert Hirschman, les arguments types de ceux qui s'opposaient aux réformes du progrès social. Et là, le candidat, qui avait été au demeurant très très bon, lui répond sans faillir l'effet pervers, l'effet d'inanité, la mise en péril, et puis il développe tout ça de manière très très claire. Et alors là, moi j'ai eu véritablement la
révélation.
J'ai aussitôt fait le lien avec le discours, avec les arguments que j'ai rattaché à cette rhétorique réactionnaire, des banques face aux réformes de la régulation financière, face aux réformes bancaires. Parce que pour lutter, si vous voulez, contre le progrès de la régulation financière et donc contre le progrès de la stabilité financière, que nous disent les banques ? Alors même si le terme est un peu générique, les banques, mais que nous disent les représentants du secteur bancaire, le lobby bancaire, eh bien, ce sont des arguments du type « la réglementation, fatalement, aura un effet pervers ». Si vous demandez aux banques d'avoir plus de fonds propres, eh bien, ça aura des effets pervers, ça va peut-être augmenter le risque des banques, ou bien ça va amener les banques à transférer leurs risques sur d'autres entités, ça va développer le shadow banking. Ça, c'est vraiment argument typique. Ou bien ils vont nous dire que si on ne régule pas à l'échelle internationale, eh bien, ça ne sert à rien. Comme ça, ben, on ne fait rien.
Argument d'inanité.
Exactement, argument d'inanité. Et puis, l'argument qui est sans doute le plus fort, et dont Hirschman disait que, en ce qui concerne les réformes du progrès social, il est peut-être le moins fort, mais il est très très fort dans le cas de la rhétorique du lobby bancaire, c'est la mise en péril. La mise en péril du crédit, du financement ou de la croissance par la régulation, par la réglementation. Donc, si vous voulez, en gros, ce jour-là, j'ai eu la révélation, je me suis dit, au fond, bah, les réactionnaires d'aujourd'hui, ce sont les représentants du secteur bancaire, c'est le lobby bancaire. Ils luttent contre le progrès de la stabilité financière, comme autrefois des réactionnaires ont lutté contre les réformes du progrès social.
Et comme l'aurait peut-être fait Hirschman, vous soumettez aussi la réglementation à cette exigence d'autosubversion.
Exactement.
De quelle façon ?
Ce que je me dis, si vous voulez, c'est que on doit essayer de s'affranchir de ces prisons rhétoriques, de ces schémas de pensée. Il faut aussi bien s'affranchir de la rhétorique du lobby bancaire que s'affranchir également d'une rhétorique trop progressiste. Donc il faut qu'on arrive à communiquer, il faut qu'on arrive à ouvrir le débat citoyen autour de ces questions de régulation financière.
Elle peut être aveugle, elle peut être rigide, cette réglementation, c'est ça que vous dites aussi ?
Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, elle peut avoir de temps en temps des effets pervers. Parfois, il y a des mesures dont on s'aperçoit qu'elles ont été moins efficaces que ce que l'on attendait. Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire que la réglementation va être toujours hyper efficace et qu'elle va réussir à renforcer de manière considérable la stabilité financière. Mais il ne s'agit pas non plus de dire, justement, qu'elle a systématiquement un effet pervers et qu'elle va mettre en péril le crédit à la croissance quand tout cela est totalement contredit par un grand nombre d'études empiriques. Donc, il faut ouvrir le débat.
Et pour vous, de toute façon, l'efficacité de ces réglementations passe par leur expérimentation dans un premier temps.
Oui, bien sûr, il faut se donner le temps de l'expérimentation, mais surtout, je crois qu'il faut ouvrir le débat sur ces questions, et le débat, trop souvent, malheureusement, est confisqué par les représentants du secteur bancaire, donc confisqué par ceux qui ont intérêt à empêcher ces réformes.
Est-ce qu'on retrouve cette rhétorique réactionnaire, comme l'appelle Hirschman, dans d'autres industries que l'industrie bancaire ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, si vous voulez, cette grille de lecture qu'il nous donne, c'est une grille de lecture qui permet de décrypter tous les discours de réaction à des réformes. Chez les climato-sceptiques, vous retrouvez exactement aussi cette même rhétorique.
Pour conclure, peut-être, Isabelle Coupé-Soubéran, pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait lire 2 siècles de rhétorique réactionnaire ?
Pour s'affranchir des schémas de pensée qui empêchent de penser et qui empêchent de débattre sereinement et qui empêchent la vie démocratique.
Merci beaucoup, Isabelle Coupé-Soubéran, maîtresse de conférence à Paris 1. Donc je rappelle votre livre, Blabla Banque, le discours de l'inaction, paru aux éditions Michelon. Un grand merci.